Bonjour, bonjour à tous. Un petit mot juste pour dire que voilà, ça fait six mois que cette émission existe et ça m'a donné envie de faire un petit récap, comme on pourrait dire. 6 mois, c'est-à-dire 25 émissions. Celle-ci est la 26e. Ça fait 6 régions visitées. Ça fait plus de 30 vins dégustés, puisque oui, évidemment, de temps en temps, il nous arrive de déguster plusieurs vins à la fois. Donc ça fait également une vingtaine d'invités qui sont passés au micro, pratiquement une dizaine de collaborateurs qui sont venus, soit des réguliers, des récurrents que vous allez retrouver encore une fois ce soir, soit des invités qui sont venus comme ça pour une ou deux émissions nous aider à découvrir des vins et à les déguster. Ça fait également deux hors-séries qui vont être publiées ou qui sont certains sont déjà publiés et d'autres le seront bientôt. Voilà, ça fait beaucoup de rencontres évidemment, beaucoup de belles rencontres. Ça fait également beaucoup de plaisir, hein. J'ai envie d'insister là-dessus, du plaisir à déguster des vins évidemment et des bons vins, et puis du plaisir à rencontrer ces gens, et puis du plaisir à apprendre aussi. C'est ce qu'on aime dans la Terre à Boire, c'est apprendre toujours sur cet univers du vin et sur les gens qui le font. Et c'est voilà, c'est là tout le sens de cette émission. Et on est bien content d'avoir déjà fait 6 mois. Et puis on va continuer, parce que la saison n'est pas terminée, à déguster des vins, à rencontrer des vignerons. Et on va continuer tout de suite, puisque ce 26e épisode s'appelle L'or du Rhin, gros plan sur les vins d'Alsace. Tout un programme. Nous voilà donc en ce mois d'avril à l'orée d'un nouveau cycle et donc d'une nouvelle région. Je dois dire que je suis personnellement ravi qu'on attaque cette région de l'Alsace, donc les vins d'Alsace, connus évidemment. On sait qu'en Alsace il y a du vin, mais pas si connu forcément que ça quand on rentre dans le détail. On a 4 émissions pour en parler, 4 vins à déguster, des invités comme d'habitude, et puis des gens autour de la table. Alors je commence toujours tout de suite par une personne qui est là pour la première fois et qu'on est ravi d'accueillir. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Hélène, on est ravi de t'avoir. Tu es youtubeuse, voilà. Tu es notre première youtubeuse, je crois. On a eu des blogueuses, mais voilà, on a une youtubeuse. Tu as ton propre blog, My Little Big Wine, qui est également une chaîne YouTube.
C'est ça.
Depuis 4 ans maintenant.
Ben ouais, bientôt.
Voilà. Qu'est-ce que tu fais sur ce blog, sur ces vidéos? Tu dégustes des vins, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait parfois des angles un peu originaux.
Ben, j'essaye de faire apprécier le vin aux gens qui n'osent pas trop, qui aiment ça sans trop s'y connaître. La première vidéo s'appelle « Comment déguster un vin sans se la péter ?» Donc ça, ça donne bien le thème et le ton des vidéos.
C'est terre à boire compatible, hein, cette entrée en matière. Et il y en a un qui m'a fait rire aussi, c'est « Quel est le vin pour un premier date ?»
C'est ça, il est sorti le 14 février dernier.
Voilà, pour la Saint-Valentin. Et là, il y avait une sorte de... Il y avait celui qui vous offre un rosé, c'est qu'il est peut-être un peu radin.
C'est ça, celui qui vous offre un rouge qui tape, bah, c'est qu'il n'a pas forcément de très bonnes intentions, en tout cas qu'il manque de subtilité, enfin voilà, que des trucs comme ça.
Donc méfiez-vous, messieurs, si vous invitez une demoiselle, et méfiez-vous du vin que vous allez choisir. Champagne, ça marche, hein, je crois que j'ai retenu ça.
Champagne, ça dépend, il ne faut pas en abuser, on peut avoir des mauvaises surprises.
Donc comme premier vin, je t'invite au restaurant, j'offre une bouteille, une coupe de champagne, ça marche.
Alors soit t'en fais un peu trop, soit il peut y avoir des surprises, on va dire gastriques.
Ah oui, mince.
Donc bon, ça peut casser, ça peut rompre un peu le charme. Donc
on ne sait pas où on met les pieds en fait. Merci Hélène, en tout cas on est ravis de t'avoir avec nous. Tu vas nous accompagner pour tout le cycle Alsace.
Ben, merci beaucoup.
Et tu es entouré physiquement dans le studio, tu es entouré par nos deux piliers. Non pas de comptoir, de studio, on va les appeler. Patrice Defay, bonsoir.
Salut, bonsoir.
Bon, ravi de te retrouver comme chaque fois finalement, comme chaque semaine.
Toujours présent.
Présent, voilà, titulaire. Oui. Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de t'avoir évidemment aussi. Tu as laissé un petit peu le comptoir du Wine Therapy. On enregistre le jour de la fermeture, comme ça on a la chance de t'avoir avec nous.
C'est un plaisir pour moi.
Et le vin d'Alsace, on a déjà eu l'occasion d'en parler. À la fin du dernier épisode de Loire, ce n'est pas un vin qu'on te commande forcément facilement, spontanément.
Il y a assez peu de demandes spontanées. Il faut faire découvrir, c'est tout le plaisir.
Et il y en a des choses à découvrir dans les vins d'Alsace. On va, évidemment y revenir longuement dans ces quatre émissions. Et comme de coutume, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vrai qu'on en a pris un petit peu l'habitude, nous on est ici à Paris, dans notre studio, on déguste des vins et puis on aime bien aller chercher un peu, comment dire, le parfum de la région dont on parle, la couleur locale. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Romain, bonsoir à toute l'équipe.
Adrien, bienvenue. On est ravis de t'avoir également dans La Terre à Boire. Tu es blogueur, toi aussi. Tu es youtubeur, toi aussi. Voilà, c'est la soirée des gens.
Exactement comme Hélène.
Voilà, c'est la soirée des gens qui font de l'image. Nous, on est surtout attachés au son, mais on est ravis de vous avoir. Et puis toi, ton blog et ta chaîne YouTube s'appellent Un Strasbourgeois dans les vignes.
Ça, tout à fait, c'est exactement ça.
Ça donne un petit peu le programme. Donc, y a une chose qui m'a frappé quand je t'ai contacté en te disant on aimerait t'avoir parce qu'on a envie d'avoir un spécialiste. Et à tout de suite, tu m'as répondu ah, mais non, moi je ne suis pas un spécialiste, c'est pour ça que je passe mon temps à aller arpenter les vignobles.
Bah, c'est exactement ça, c'est parfaitement résumé. Finalement, c'est pour découvrir cette richesse des vins d'Alsace, mais pas que. Que j'ai décidé de lancer le blog et de partir à la rencontre des vignerons et de lancer la chaîne YouTube également dans ce sens-là.
Toi, tu es alsacien, strasbourgeois d'origine ?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai grandi à Strasbourg. Après, j'ai vécu quelques années en Île-de-France. Et puis, je suis revenu pour cette envie, justement, et ce plaisir de retrouver des très belles choses, que ce soit en vin, en gastronomie, en Alsace.
Bon, écoute, tu vas nous aider, nous accompagner sur cette découverte de ce terroir si particulier dont les noms sont parfois difficiles à prononcer. tu vas peut-être nous aider dans ce domaine d'ailleurs. Comme de coutume, j'ai envie de dire aussi, tiens, Patrice, tu nous as préparé une petite vue d'ensemble un petit peu de cette région.
Écoute, je m'y colle, si j'ai pas le choix. Alors, l'Alsace, c'est la région la viticole la plus à l'est de la France. Mmh. C'est une bande de 10 km de large sur 80-90 km qui va de Mulhouse à Strasbourg. C'est 15 500 hectares, toujours les chiffres, ce qui en fait pas un très très grand domaine, mais avec une grande diversité, puisque géologiquement, on est sur une faille qui date du Miocène, enfin, c'est pas très important, il y a quelques millions d'années, mais qui fait qu'on est en gros entre la plaine du Rhin à l'est et les montagnes vosgiennes à l'ouest. Donc c'est une faille, c'est un écroulement, on va dire, géologique, qui donne plein de caractéristiques. Dans les grandes lignes, cet affaissement géologique crée une mosaïque en fait, de terroirs et de sols complètement différents, avec en gros près du Rhin des argiles et des limons, et plutôt côté montagne vosgienne, des granites, des schistes, des gneiss, des grès. L'autre caractéristique, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, compte tenu du côté très septentrional de l'Alsace, c'est une des régions viticoles où il pleut le moins en France, puisque les vents d'ouest et l'humidité de l'ouest est arrêtée par les monts vosgiens, donc il y a un grand ensoleillement en arrière-saison, donc avec un été et un automne très très long, ce qui donne en général un assez long cycle à la maturité des raisins, d'où souvent beaucoup de sucrosité.
C'est important de le dire parce que je pense que beaucoup de gens ont une image assez fausse de l'Alsace. Voilà. C'est à l'est, il y fait froid, il y pleut, mais pas du tout.
Il fait froid en hiver, mais comme le cycle de la vigne est plutôt, on va dire, printanier, estival, là il fait très chaud parce qu'on est sur un climat continental et finalement assez sec compte tenu du côté septentrional.
Comparé à la Lorraine qui est donc de l'autre côté des Vosges, il y a vraiment cet effet quand on passe les Vosges, la barrière des Vosges, le soleil apparaît quand on franchit cette barrière et l'Alsace est quand même très très souvent baigné de soleil, même si l'hiver il y fait froid, il y a toujours une grande lumière en Alsace.
Exactement. Et donc du coup, on est sur un climat finalement relativement sec. Laurent est assez fan, de l'effet de faune, mais on a beaucoup d'effets de faune en Alsace, puisque l'humidité est bloquée par les Vosges et ça redescend en vent sec et assez chaud en fait sur l'Alsace. L'autre grande caractéristique de l'Alsace, c'est qu'on parle plutôt, comme dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne, à travers des cépages. Enfin, on nomme plutôt les vins à travers les cépages, ce qui est assez peu courant et assez peu commun en France. Et l'autre peut-être grande caractéristique, c'est qu'on a une dominante de blanc. je pense à 85 ou 90%, que ce soit en crémant, c'est 25% de la production, ou dans les grands blancs, que sont les grands cépages d'Alsace, Riesling, Gewürz, Gewürztraminer notamment. Que dire d'autre ? On a aussi, grâce aux Vosges et à certains affaissements géologiques, on peut avoir des très très fortes pentes. On a des collines, mais des collines fortement pentues, ce qui influe pas mal certains vignobles et certaines manières de vinifier.
C'est un vignoble de coteaux beaucoup plus que de plaines.
Exactement.
Et comme d'habitude, c'est sur les coteaux qu'on retrouve les meilleures expressions.
Voilà, donc les grands crus sont en général en coteaux, sur des pentes assez verticales, et globalement, même si c'est difficile de donner une généralité, plutôt donc sur des terroirs, on va dire, à roches dures, tendance volcanique, granit, gneiss, etc.
Adrien, bon. tu reconnais le portrait de l'Alsace que tu oui, arpentes au quotidien?
Je trouve que c'est effectivement très bien résumé. Je pense qu'il est très intéressant et ce sur quoi on peut appuyer, c'est finalement cette diversité, que ce soit en terroir, en type de sol, mais également en cépage, qui fait que finalement le vin d'Alsace a énormément de facettes différentes, peut s'accorder avec plein de plats dans des moments complètement différents. Donc c'est intéressant d'appuyer un petit peu là-dessus. C'est vrai que le vin d'Alsace, comme vous l'avez dit, a cette réputation de n'être que finalement des vins un petit peu lourds, alcooleux, sucrés. Quand je vous parlais de mon expérience en Île-de-France, on me parlait souvent du Gewürztraminer Vendange Tardive. Et c'est un petit peu dommage de ne résumer finalement cette belle région et cette belle diversité uniquement à ce type de vin-là.
Il y a une chose en préparant ce cycle qui m'est apparu, c'est qu'effectivement on a cette image de vin sucré, parce qu'il y a une tradition quand même de vin sucré, hein, elle ne vient pas non plus de nulle part cette image, il y a du soleil et des maturations longues comme le disait Patrice, et il y a ce savoir-faire, on y reviendra sur les vendanges tardives, les sélections de grains nobles qui sont des vins plutôt sucrés, et du coup il y a aussi il me semble le fait que d'une manière générale la demande s'oriente aujourd'hui beaucoup plus sur des vins secs, et du coup c'est comme un décalage, en fait on a l'impression que l'Alsace est plus en phase avec la demande, alors qu'en fait c'est un résumé beaucoup trop court et qu'il n'y a pas que des vins sucrés. Alors d'abord les vins sucrés, il y en a des merveilleux, mais en plus il n'y a pas que des vins sucrés en Alsace, on fait aussi des vins secs.
Oui, tout à fait, complètement. On fait des vins secs. Donc, comme je vous disais, il y a une très belle diversité. Après, je pense que l'offre également au niveau des vignerons aujourd'hui s'oriente également beaucoup plus vers ce type de vin, beaucoup plus sec, moins sur le botrytis, moins sur le sucre. Et finalement, l'offre en Alsace existe. Et c'est peut-être au niveau de la demande, ou en tout cas de la manière de présenter les vins et de dépasser ce cliché du vin uniquement sucré, où il y a un travail à faire de la part de notre région.
Donc c'est intéressant parce que ça nous emmène sur le sujet de la dynamique, le mouvement des vins d'Alsace. L'Alsace, dans son histoire, a souvent été précurseur de certaines choses. Le bio, par exemple, le poids du bio en Alsace est plus important, si je ne m'abuse, que dans le reste du vignoble français, et très très en avance par rapport à des vignobles comme la Champagne, par exemple. Tu parles du coup de cette tendance à faire des vins peut-être plus secs pour rencontrer la demande qui est plus en faveur de ces vins-là. Quelles sont les autres tendances que tu soulignerais si on reste comme ça sur une vision assez générale du vignoble alsacien?
Effectivement, comme tu parlais du bio, il y a effectivement les vins nature et les vins biodynamiques, un petit peu comme en Jura dans une émission que vous avez fait dernièrement, qui est une véritable locomotive et ce sont des ambassadeurs finalement de la marque Alsace et des vins un petit peu différents de ce qu'on peut avoir en tête. Donc il faut savoir par exemple que Demeter, le siège se trouve à Colmar, et on a certaines têtes de train, que je pense à Olivier Zintumbrecht, qui fait beaucoup pour faire parler de l'Alsace sur des vins un petit peu différents. Donc la biodynamie est assez intéressante pour faire des vins donc sur la minéralité, sur la droiture, des choses qui s'éloignent assez finalement des vins sucrés. Donc c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Après, il y a également un autre mouvement où on va s'éloigner finalement des vins de cépage. Donc on disait que l'Alsace, effectivement, sur les bouteilles, on met en avant le cépage Riesling, le cépage Sylvaner. Et il y a une tendance de fond qui est plutôt de remettre le terroir en avant finalement. Donc ça passe par de la complantation, ça passe par des assemblages, mais également sur le fait de ne plus mettre le cépage sur la bouteille pour plutôt mettre en avant le terroir. Et En exemple, j'ai un Gewürztraminer de Florian Beckerberg, donc qui est à Dambach-la-Ville dans le Bas-Rhin, qui est un Gewürztraminer qui est vinifié en sec sur un terroir volcanique. Et finalement, on ne sent pas du tout le cépage et c'est le terroir qui prend le dessus. Et vu la palette et la diversité des vins d'Alsace, c'est intéressant de finalement mettre ces terroirs en avant plutôt que uniquement un cépage qui est peut-être un peu réducteur.
La gastronomie alsacienne, on va en parler et également, c'est quelque chose d'assez, voilà, d'assez présent dans la région. En Alsace, on mange pas mal de cette gastronomie. On boit aussi beaucoup de vin d'Alsace. C'est aussi une région où on boit de la bière. Est-ce que voilà, l'Alsacien en général boit surtout du vin d'Alsace ou l'œnophile alsacien est aussi très porté sur les Bourgognes, les Bordeaux ou on garde quand même cet attachement aux vins locaux pour accompagner charcuterie, choucroute, fromage locaux.
Il y a forcément, je pense que les Alsaciens, comme beaucoup de régions, sont quand même très chauvins, donc ont quand même tendance à boire pas mal ce qui est issu de leur terre, tout simplement. Après, effectivement, les plats alsaciens, le Bekehof, la choucroute, ce sont des plats qui s'accordent beaucoup plus facilement finalement avec les vins blancs. Donc c'est vrai qu'en termes de vin blanc, on a tendance peut-être à boire beaucoup plus local. Mais je pense que c'est peut-être une tendance nationale également, puisque les vins d'Alsace sont consommés majoritairement par des personnes du Nord-Est finalement.
Oui, alors ça c'est un des éléments où il me semble que par rapport à la qualité de ce vin, on avait croisé ça aussi sur la Corse, c'est quand même un vignoble qu'on voit moins souvent. Voilà, sur les tables des restaurants, on sait qu'il y a du vin en Alsace, mais voilà, quand on vit à Paris, par exemple, on n'a pas tant que ça l'occasion de boire des vins alsaciens. Ils s'exportent, j'imagine, hors de nos frontières, mais pas forcément autant que ça à l'intérieur du territoire.
Après, sur l'autre caractéristique, je crois, de l'Alsace, c'est sa route des vins. C'est une des routes des vins des plus anciennes de France. C'est une des plus...
Précurseur aussi en œnotourisme, l'Alsace.
Un des plus courus, alors d'abord parce que ça vaut le coup, c'est-à-dire que sur un territoire qui est assez long, qui fait 80 km, on traverse juste des paysages magnifiques.
Superbe.
Ensuite, les Allemands l'arpentent énormément, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une vente très nord-est des vins alsaciens, c'est que ceux qui les arpentent au sens physique du terme, ils sont plutôt du nord-est, malheureusement. parce que, oui, voilà, c'est une des plus belles routes des vins de France, c'est une des plus anciennes et une des précurseurs de l'œnotourisme.
Toi, Adrien, parmi ces rencontres de vignerons, il y en a une ou deux comme ça que tu mettrais en avant qui t'ont frappé ?
Une des dernières que j'ai pu faire, donc c'est à Volxheim, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Donc c'est au domaine Lissner, c'est Bruno Schlegel, donc qui est un vigneron qui travaille en viticulture sauvage, donc finalement ce qui est un terme qu'on n'entend pas, qui n'entend pas forcément du tout, et qui a une vision vraiment très intéressante du cycle de la vigne, mais également de la dégustation, donc qui doit être, il associe beaucoup la dégustation à des couleurs, la dégustation à des musiques, et finalement c'est intéressant d'avoir cette approche peut-être différente et peut-être un peu plus instinctive que la dégustation un petit peu scolaire.
Tiens, parlons de dégustation, tu me tends une belle perche. On a mis dans nos verres un vin que nous a rapporté l'ami Laurent, qui est un vin qu'on peut boire au Wine Therapy, qui est un Pinot Gris. Voilà, on a fini la Loire sur un Pinot Noir. Alors, sans dévoiler de secret, on va revenir à du Pinot Noir quand même en Alsace parce qu'on en fait des très beaux. Et là, Laurent, c'est un Pinot Gris de la maison Bœsch.
Oui, effectivement, c'est la cuvée Le Coq du domaine Léon Bœsch. Millésime 2016. Donc,
qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin ? D'abord, il est très clair en couleur.
On a une belle brillance. On a, moi, je trouve, ouais, quand même, on a bu des choses plus claires, quoi.
Hein.
Il a quand même une petite teinte, à mon avis, un peu dorée, et donc une belle brillance, une belle transparence. Et quand on le met au nez, on a des choses. Belle complexité aromatique, à mon sens, avec à la fois une sensation d'agrumes, mais d'agrumes un peu confits. Je ne sais pas si vous me suivez sur ce nez, mes petits camarades, là.
Moi, j'ai le côté agrumes, mais presque aigre, un peu aigre doux.
Il y a un petit côté aigre, et en même temps, je trouve qu'il y a ce... Moi, j'ai l'impression de sentir du citron confit.
Alors, ouais, aigre, ça fait un peu peur.
C'est pas
du tout désagréable.
Du tout.
Non.
Au contraire.
Non, c'est plutôt agréable parce qu'en plus, comme on est quand même sur un vin assez riche. Hein. Bon,
c'est pas
l'exubérance du Gewürz, mais c'est quand même Pinot Gris.
On sent qu'il y a une belle vivacité.
Il y a quand même de la vivacité. Donc, du coup, c'est assez équilibré.
Donc, c'est un domaine, le domaine Lombosch, qui est familial, évidemment, qui est là, je crois, depuis 1640.
Ah oui.
Donc, ils savent ce qu'ils font. Hein. Je crois que c'est la 11e génération. Là, Mathieu, qui travaille actuellement avec son père Gérard sur le domaine.
Ils sont en biodynamie, du coup.
Pardon ?
Biodynamie, du coup ?
Oui, ils sont déméter.
Qui est basé à Colmar, comme disait donc Adrien.
Et ils sont pas très loin de Colmar. Ils sont dans un village qui s'appelle Westalter, au cœur de la Vallée Noble. Et la particularité, c'est qu'en plus d'être passé en biodynamie, ils ont donc, depuis 2010, ils travaillent maintenant dans un chai bioclimatique.
Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça, un chai bioclimatique ?
Un chai bioclimatique, c'est construit à partir de matériaux naturels. Donc là, concrètement, c'est des roches calcaires qui servent de base. Il y a des colombages en bois et ils ont 1500 bottes de paille qui servent à donc assurer la, enfin créer les, je sais pas comment on pourrait
les conditions de conservation,
l'isolation. Donc il y a pas de béton,
exactement.
Pas d'inox.
Voilà, exactement. Donc ça va vraiment très loin dans le respect des éléments puisqu'ils ont mis ça déjà en place maintenant il y a 7-8 ans.
Et tu crois que ça apporte quelque chose au vin?
Non, je pense qu'on va en parler juste après parce qu'on va avoir un intervenant qui s'appelle Christian Pinard qui a fait la même chose, mais ça apporte notamment, alors après ça dépend si on va dans l'ésotérisme sur les ondes, parce que tu peux y avoir aussi une orientation des pierres et des polarisations pour favoriser les levures, ouais. Mais a priori le travail est plutôt sur les levures et le fait d'avoir un environnement propre mais pas aseptisé, c'est-à-dire de favoriser aussi les micro-organismes à l'intérieur des chais,
et notamment les levures, propre
au chai aussi.
Adrien, tu connais peut-être ce vin, le Pinot Gris de la maison Bösch?
Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le goûter pour l'instant, mais en tout cas, la description donne envie d'aller voir sur place directement.
et cette histoire de chai biodynamique,
bioclimatique.
Donc, bioclimatique, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré en Alsace?
Alors, pas du tout non plus. Non, effectivement, mais...
Il faudra que tu ailles voir Christian Binaire, il en a fait un il n'y a pas très très longtemps. Il en a monté un il n'y a pas très très longtemps.
Okay. D'accord. En tout cas, c'est un très bon vigneron aussi que vous allez inviter.
Christian Binaire, moi, j'avais juste une question, si je me permets. C'est quoi la viticulture sauvage, hein, ce que fait M. Schlögl, là? Ça m'intéresse de savoir ce que
alors,
ça veut
dire. Oui, tout à fait. Donc la viticulture sauvage, ça consiste tout simplement à laisser un petit peu la plante vivre puisqu'elle existe naturellement et qu'elle produit du raisin naturellement. Et donc ça va être d'éviter de la stresser, d'intervenir au niveau des rangs pour laisser la vigne donner le meilleur de soi-même. Donc ça paraît peut-être comme ça un petit peu ésotérique. Mais en tout cas, Bruno Schlögl, justement, a une approche qui est quand même assez cartésienne et assez scientifique là-dessus.
Ça veut dire qu'il y a moins de taille de la vigne, tout simplement, ou...
Il taille la vigne quand même.
Oui, tout à fait, évidemment, bien sûr. Il la taille au mois de mars. Après, il y a beaucoup moins de travail des sols, par exemple, de labour. Mmh. Et finalement, on va laisser le sol, l'humus et le verre, les plantes, travailler à l'essor de cette vigne.
C'est un cran plus loin encore que vin nature via de biodynamique, où on dit qu'on laboure entre les rangs, mais on laisse le pied. Là, carrément, on ne laboure plus. Quoi. Sauvage.
Voilà, on va laisser en naturel, finalement.
Est-ce que, avant de se quitter, toi, tu as un vin préféré parmi cette abondance de cépages? On en a déjà cité quelques-uns. Là, on est en train de déguster un Pinot Gris. Il y a évidemment les deux... Roi, le Riesling, le Gewürztraminer, il y a du Pinot Noir, il y a aussi d'autres cépages plus petits. Est-ce que toi, tu devais conseiller un vin à quelqu'un qui ne connaît pas le vin alsacien, tu aurais quelque chose à proposer?
J'aurais peut-être tendance, si on parle de petits cépages, à partir sur du muscat. Il y a des muscats qui sont très intéressants quand ils sont sur des grands terroirs. Donc le muscat, ça représente qu'un petit pourcentage de tout le vignoble alsacien, mais c'est quand même considéré comme un cépage noble. Donc on peut l'utiliser finalement sur des grands crus. Donc si je reste sur le domaine Lissner, on a donc ce muscat de l'Altenberg de Volxheim. Donc qui est ce grand cru, ou sinon je parlerais peut-être d'un pinot noir, puisque les pinots noirs sont pas forcément reconnus. Donc effectivement, comme vous le disiez, il n'y a que 10% du vignoble alsacien qui est rouge finalement, et il y a des pinots noirs qui sont juste exceptionnels, qui sont faits en Alsace sur des rendements un petit peu plus faibles. Donc je penserais à Kumpfenmeyer, donc Julien Albertus qui est à Rosheim, et qui fait trois pinots noirs qui sont exceptionnels et complètement différents les uns des autres. Donc une nouvelle fois pour souligner cette diversité et finalement prouver qu'en Alsace on peut faire de l'excellent pinot noir.
Merci. Peut-être, tiens, j'ai envie de demander aussi, est-ce qu'il y a un endroit, comme l'Alsace est assez forte et réputée en œnotourisme, un endroit à conseiller pour aller passer un week-end dans le vignoble alsacien où on lit évidemment le bon vin et puis un accueil, parce que l'accueil alsacien, c'est quelque chose quand même, hein, on est quand même très très bien accueilli dans cette région, que ce soit au restaurant ou en hôtellerie. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça que Alors peut-être que habitant sur place, tu fréquentes pas tant que ça l'hôtellerie alsacienne, mais est-ce qu'il y a un coin qu'on pourrait conseiller pour aller passer un week-end dans le vignoble?
Oui, éventuellement. Le fait d'avoir vécu quelques années à Paris, ça m'a donné envie d'aller visiter peut-être un peu plus qu'un local ici. Après, bon, il y a les villages un peu plus classiques. On a Eggisheim et Kaysersberg, qui sont vraiment des villes magnifiques avec un pont, des petites rivières, les maisons à colombages, la place remplie de géraniums avec beaucoup de fleurs. Donc, c'est vrai que c'est quand même des endroits complètement magnifiques, entourés par les Vosges et par les vignobles. Je dirais Kaysersberg comme première destination, c'est plutôt intéressant. Et si vous restez un week-end, vous pouvez finalement aller visiter les vignerons qui sont autour et les autres villages qui sont vraiment magnifiques autour. Donc c'est un village qui est dans le Haut-Rhin, pas très loin de Colmar.
Donc le Haut-Rhin, c'est celui qui est en bas, hein, sur la carte.
Exactement, tout à fait.
Voilà, il
C'est
faut se
inversé.
rappeler juste de cette petite subtilité, le Haut-Rhin Mulhouse, le Bas-Rhin Strasbourg, la partie nord. Merci Adrien, on invite les auditeurs à te retrouver donc sur le blog Un Strasbourgeois dans les vignes, ça dit tout le programme, on te voit un petit peu arpenter avec ton micro et aller rencontrer des vignerons, parfois dans leur vigne, concrètement, pour les interroger. Et c'est assez passionnant. Voilà, blog et chaîne YouTube. Nous, on va continuer sur notre route et on va appeler, pour le prochain épisode, on appellera Christian Binaire. Merci beaucoup, Adrien.
Merci beaucoup à vous. Merci.
À bientôt, au revoir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Bah super, une belle rencontre, encore une. On a vraiment fait un tour très très général, hein. Il y a tellement de choses à dire sur le vin alsacien. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de ce Pinot Gris? Moi, je trouve ça hyper agréable à déguster. C'est très fin. C'est vrai que c'est fruité. C'est pas du tout sucré, hein. C'est vraiment un vin
Il y a
sec.
moins de 3 grammes dans ce vin, en effet.
Pas du tout de sucre résiduel, du
Je crois
parfum.
qu'on considère l'acidité en dessous de 4-5 grammes, c'est ça? Enfin, que le vin
Il est
est
sec.
sec, ouais, qu'il est sec, voilà.
En tout cas, elle a une très belle acidité, ça. Ça réveille les papilles.
Ouais, ça claque,
Ouais.
ça claque bien. Moi, j'aime bien ce genre de vin un peu
Okay.
citronné, là.
C'est un Pinot Gris qui est cultivé sur du grès, justement. On parlait de la géologie. C'est vrai que ça rentre en ligne de compte, hein, bien dans l'expression des cépages. Et là, donc, c'est cultivé sur du grès.
Le Pinot Gris, on ne l'a jamais croisé encore. C'est vraiment un cépage typique alsacien. On le retrouve ailleurs.
Oui, alors c'est amusant parce qu'effectivement, je lisais que c'est le cépage qui s'est le plus développé ces dernières années en Alsace. Je suis assez mauvais avec les chiffres, mais j'avais mis ça de côté parce que je trouvais ça assez intéressant. Et parce que j'ai pas trop la réponse,
Mais on ne le retrouve pas
j'ai
spécialement
des
dans
éléments de
d'autres régions françaises.
En France, non. Non, très, très ponctuellement dans la Loire. Mais,
après, entre... il est assez connu en Italie.
Voilà, après, vraiment, la région de prédilection, c'est le nord de l'Italie. Enfin, la région, ouais, la zone, c'est le nord de l'Italie. Mais entre 80 et les années 2010, les surfaces cultivées de Pinot Gris ont plus que quadruplé en Alsace. D'accord. Donc la question, c'est de savoir si c'est justement parce qu'il y a l'essor du Pinot Grigio sur tous les pays du Nouveau Monde, sur les consommateurs du Nouveau Monde qui découvrent ce cépage et qui, donc, où il pourrait y avoir justement une facilité à exporter qui soit intéressante. Mais en tout cas, les viticulteurs alsaciens ont bien développé ce cépage.
Et puis si on avait une bouteille de 1980, elle ne s'appellerait pas Pinot Gris, elle s'appellerait Toquet d'Alsace. Et si on avait une bouteille de 2002, elle s'appellerait Toquet Pinot Gris.
Alors raconte-nous ça, effectivement, c'est intéressant. Juste, le Tokaï.
Il y a aussi, oui, alors, il y a une légende qui dit que le Tokaï, mais je crois que c'est pas vérifié, qui a été ramené en 1585 par un colonel français qui a gagné la bataille de Tokaï.
Tokaï, c'est ramené, une ville en Hongrie.
C'est en Hongrie, voilà. Et après, il y a une bataille juridique de la Hongrie qui a voulu récupérer l'appellation Tokaï. Et donc voilà, le Pinot Gris ne s'appelle Pinot Gris que depuis 2007. Avant, il s'appelait Tokaï Pinot Gris et avant 84. Toquet d'Alsace.
Voilà. Pourtant, ce sont des vins très très différents parce que le Toquet, c'est très sucré.
Ouais. Tout à fait. Ouais, mais d'ailleurs, le Pinot Gris à l'époque, mais tout à fait. Mais c'était l'appellation Toquet. Je suis même pas sûr que ce soit les mêmes cépages.
Non.
Mais
non, c'est pas du tout les mêmes cépages.
Parce que le Pinot Gris, en fait, est un cousin du Pinot Blanc et du Pinot Noir, donc est plutôt un cépage bourguignon. Mais on a toujours un doute. En empélographie, on a toujours un doute sur l'origine véritable des cépages. Mais en tout cas, voilà, c'était plutôt une bataille juridique sur l'appellation Toquet qu'on connaissait.
Pas sûr qu'on ait d'ailleurs précisé pourquoi Pinot Gris.
Mais précise. Tu as raison.
Parce que la peau du raisin est rose.
D'accord. On a du Pinot Blanc, dont on a vu qu'on fait aussi du champagne.
Bon, c'est peut-être pas très logique.
On a du Pinot Gris. Ni noir ni blanc. C'est...
Rose, ça fait gris. Et on a évidemment le Pinot Noir qui sera l'objet du prochain épisode. Allez, très vite. Si on doit accompagner ce vin avec quelque chose à manger, c'est un vin. De table, enfin de dégustation qu'on peut prendre. Enfin, moi, je ne veux pas être obsédé par l'apéro, mais pour moi, c'est très, très bien l'apéro. Hein, ça se boit très, très bien.
Parce que tu bois souvent l'apéro, mais il faut s'y manger. Et ça se passe bien au repas, hein, le Pinot Gris. Hein.
Ouais. Avec
blanche,
quoi
un petit... poisson aussi.
Oui, je pense que du poisson aussi. Un petit rôti de veau Orlov, moi, je verrais bien. Là, j'ai envie de rôti de veau Orlov ce soir.
Il paraît que c'est bien aussi avec les poêlés de champignons.
Ah oui,
marcher, les champignons et certaines terrines.
Et le rôti de veau Orlov servi avec une poêlée de champignons
et un Pinot Gris, c'est parti.
Et un Pinot Gris. Là, on est les plus heureux du monde.
Le fameux Beckhoff aussi, hein. Il faut absolument goûter un Beckhoff, une sorte de pot-au-feu alsacien. Alors, peut-être que les Alsaciens n'aimeraient pas du tout que je dise que c'est un pot-au-feu, mais en gros, c'est quelque chose qui mijote longtemps dans un plat en terre. et ça mijote vraiment très longtemps. Je n'ai pas les temps de cuisson en tête, mais voilà, c'est vraiment somptueux. C'est très, 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 très bon.
Et comme le vin est vif, il viendra peut-être un peu alléger le plat et rafraîchir la bouche pour en reprendre encore et encore.
Ça ferait parfaitement l'affaire. Ben voilà, pour un premier tour en Alsace, on a été servi avec ce petit Pinot Gris du domaine Boesch et avec notre invité Adrien. Merci Laurent, merci Patrice, merci Hélène. On se retrouve la semaine prochaine, très très vite, pour changer de couleur de Pinot. Voilà, on a fait un Pinot Gris, on va passer au grand, au célèbre, au Pinot Noir, pas celui de la Bourgogne, mais celui de l'Alsace, avec un vigneron non moins célèbre, Christian Binaire, qui va nous parler de sa manière de faire le Pinot Noir et sa vision un petit peu du terroir alsacien. À très bientôt, à tous les trois.
À bientôt.
À bientôt.
Salut, salut.